chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour, je m'appelle Stacy Corriveau, je suis conseillère cadre clinicienne à la Direction des soins infirmiers et je suis avec...
Julie Blanchette, conseillère en soins infirmiers à la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu.
Donc, bienvenue à cet autre épisode de Savoir et Stéthoscope. Aujourd'hui, le sujet sera la fatigue de compassion.
Ouais, mais j'en ai déjà entendu parler. C'est-tu la même chose que usure de compassion, trauma vicariant, fatigue du soignant?
En effet, Julie, plusieurs termes sont utilisés pour parler de la fatigue de compassion à tort. Et nous aurons justement la chance de faire la lumière sur ce qu'est exactement la fatigue de compassion.
Parfait, j'ai hâte d'en savoir plus.
Alors, c'est parti pour un autre épisode.
Soins sécuritaires,
réontologie,
L3S,
acte réservé.
Ai-je le droit?
Ai-je le droit, comme infirmière auxiliaire, de procéder au retrait des agrafes d'une plaie chirurgicale lors de ma pratique en soins à domicile, sans qu'une évaluation infirmière ait eu lieu? Selon l'OIIAQ, l'infirmière auxiliaire peut en effet retirer les agrafes selon une ordonnance médicale ou selon des directives infirmières au plan thérapeutique infirmier. Cette activité s'inscrit dans son activité réservée, qui est d'exécuter les soins et traitements reliés aux plaies ou altérations de la peau et des téguments, selon une ordonnance ou selon le PTI. Elle doit ainsi être en mesure de reconnaître ce qui est normal ou anormal en lien avec le processus de cicatrisation de la plaie. Elle doit aussi aviser l'infirmière en présence de signes de complications ou en cas de doute. Elle doit en tout temps respecter les limites de ses connaissances et compétences, car elle engage pleinement sa responsabilité dans chaque intervention qu'elle pose. L'infirmière pourrait par exemple inscrire au PTI des directives telles que de retirer les agrafes si absence d'écoulement ou si les berges de la plaie sont consolidées, en l'absence de signes d'infection, par exemple. Cette notion est d'autant plus importante dans le cas où l'équipe est jeune. Elle pourrait même préciser dans quelle situation elle voudrait que l'infirmière auxiliaire avise l'infirmière ou l'assistante du soin à domicile.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Donc aujourd'hui, on a beaucoup de coups de cœur et on souhaite vous parler de l'équipe de la SPIC. L'équipe de la SPIC, c'est une équipe de soutien psychosocial et d'intervention de crise. C'est une équipe qui fait partie de la Direction des ressources humaines dans les services spécifiques de santé et bien-être du CIUS de l'Est-Richu. L'équipe a vu le jour il y a environ 3 ans et a permis de soutenir plusieurs équipes en souffrance.
Ah, c'est quand même intéressant. Je savais même pas qu'on avait ça au CIUS de l'Est-Richu. Mais concrètement, c'est quoi les services qu'ils offrent?
Je connais sommairement leurs services, mais quoi de mieux que d'entendre Marie-Josée Bouchard, agente de relations humaines qui travaille dans cette équipe pour nous en parler. Voici ce qu'elle a répondu lorsque nous l'avons rencontrée.
En fait, on a 2 volets d'intervention qui sont le soutien psychosocial et l'intervention de crise. Pour le volet d'intervention psychosociale, ça inclut une partie d'analyse des besoins qui va venir soutenir le développement d'ateliers spécifiques que nous, à l'équipe SPIC, on va construire sur mesure, en fait, puis on va aller les offrir en présentiel aux personnes concernées. Je vous donne un exemple. Il y a eu, en début d'été, des gestionnaires qui ont eu à faire une modulation d'horaire et ça, c'est venu impacter la santé psychologique des membres de leur équipe. En fait, quand on parlait à leur PRH, les coordonnateurs, bon, les PRH nous ont fait une demande de service à l'équipe SPIC. Les conclusions de notre analyse à nous, ça leur fait ressortir une souffrance morale, puis un certain conflit de valeurs que les employés pouvaient vivre. Par exemple, si la valeur de venir soigner tous les patients pouvait entrer en contradiction ou en tension avec les décisions de l'établissement. À partir de là, nous, à l'équipe SPIC, on a construit un atelier pour accompagner les employés dans une démarche de réflexion éthique. En fait, ça venait les aider à apaiser la détresse que cette situation-là pouvait générer chez eux. C'est le genre d'activité qui peut certainement contribuer à prévenir des problèmes de santé quelconques, comme l'usure de compassion dont on parle ici. Ça, c'est juste un exemple. On reçoit des demandes variées. Et nous, à l'équipe SPIC, on construit des ateliers sur différents thèmes selon les besoins. Ça peut être, je vous donne d'autres exemples sur le deuil infantile, les événements qui ont un potentiel traumatique, la gestion du stress. Ça peut être simplement la communication, l'affirmation bienveillante ou comment on prend soin de soi dans un contexte de changement. Dans ce volet-là, on offre également un soutien sous forme de coaching aux gestionnaires qui en font la demande. Évidemment, on est très conscient que ces gestionnaires-là peuvent avoir des besoins et que s'ils veulent accompagner leurs équipes, eux aussi, ils ont également besoin de support. dans le volet d'intervention de crise, on vient là nécessairement donner une réponse beaucoup plus rapide, dans un délai d'environ 3 heures. Et là, c'est suite à un événement qui est imprévu et à risque d'une souffrance élevée ou d'un trauma pour les équipes. Il peut s'agir, je vous donne des exemples, d'un événement commun. C'est sûr que c'est un décès traumatique, un suicide ou une tentative de suicide d'un employé ou d'un usager, une agression. Ça peut être physique, verbal, sexuel. Dans la crise, nous, ce qu'on va surtout offrir, c'est une intervention de type « diffusing » pour aider les employés, c'est sûr, à gérer les réactions de stress post-traumatique puis à réduire la détresse que ça génère. Ça, ça va également venir prévenir des complications de santé parce qu'à ce moment-là, on va leur donner des informations. Qu'est-ce que tu peux faire suite à l'événement, les jours qui suivent, les semaines qui suivent? Qu'est-ce que tu dois éviter? Comment tu peux guetter les signes, les symptômes, puis à qui tu dois référer selon le cas? Il faut préciser ici, notre offre de service s'adresse à la communauté interne du CIUSSS de l'Esprit CIUSSS, mais plus précisément aux équipes de travail sous forme d'une intervention de groupe. Donc, en ce sens-là, on n'offre pas de service individualisé puis ça ne substitue pas au PAE. Au contraire, dans nos interventions de crise, on va cibler des personnes plus vulnérables puis on va les référer à leur PAE s'ils ont besoin d'aide individuelle.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quelle façon on peut avoir accès à vos services?
Oui, comme on a un mandat double, on a aussi une trajectoire double. D'abord, il faut savoir qu'on est essentiellement un service de deuxième ligne. Donc, pour un besoin d'intervention psychosociale, ça passe en majeure partie du temps par le PRH qui, lui, doit compléter un formulaire de demande de service puis nous l'envoyer par courriel à l'équipe SPIP. Si on est dans une situation de crise, la meilleure porte d'entrée, ça devient le moyen le plus rapide et efficace que vous allez trouver pour nous joindre. Peu importe, tous les moyens sont bons pour communiquer, soit, comme on le dit en début, avec Mélissa Rancourt, la coordonnatrice, Stéphanie Chénier, la conseillère cadre, ou une des 3 intervenantes sociales, Émilie Tanné, Alexandra Dubuc ou moi-même, Marie-Josée Bouchard.
Oh wow, je suis enchantée de savoir que ça existe, ce genre d'équipe-là.
Je te comprends. Et la beauté dans tout ça, c'est que les services de la SPIC sont offerts à l'ensemble des gestionnaires et employés de notre grand CIUSSS. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter en cas de besoin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Elisabeth Sétamant, conseillère en soins infirmiers et préceptrice à la DSI depuis 3 ans. En soutenant les nouvelles recrues dans le domaine, elle a découvert l'importance cruciale de prendre soin de soi pour pouvoir exercer efficacement une profession en soins infirmiers. Elisabeth est également membre de la communauté d'éveilleurs. Bonjour Elisabeth.
Bonjour à tous. Je suis contente d'être avec vous. Déjà, si vous le voulez bien, on va d'abord se plonger dans un extrait qui illustre parfaitement ce qu'est la fatigue de compassion. Je pense que cette situation pourra résonner avec un bon nombre d'auditeurs.
Un autre matin au travail. J'ai toujours été tellement fière et enthousiaste d'être infirmière. Mais là, on dirait que je me reconnais plus. Ça fait des semaines que ça dure. Au début, je le ressentais à peine. Mais maintenant, ça me submerge comme une vague. Quand je rentre sur l'unité, je me sens comme vidée, épuisée dans mon corps, dans ma tête. On dirait que peu importe ce que je vais faire, ça va servir à rien. Finalement, est-ce que comme infirmière, je peux vraiment faire une différence? J'ai l'impression d'être à des années-lumière de mes usagers, de mes collègues, comme si j'étais indifférente, déconnectée. Ma collègue me salue.
Allô, Gisèle?
Oh non, j'espère qu'elle va pas me demander de l'aide. J'ai même pas la force de lui répondre. Je fais un petit salut de la tête. Tout m'apparaît comme une montagne. Il faut que j'aille voir M. Paul qui a eu son diagnostic hier. Je me sens pas prête à recevoir ses questions, ses préoccupations. Je vais juste aller faire son évaluation de plaie puis le changement de son pansement. Je vais me concentrer là-dessus. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que je sens le stress monter comme si je m'en allais escalader l'Everest. Je vais y aller au plus vite. Je vais essayer d'oublier mon inconfort en dedans, mes picotements dans les jambes, mon envie de pleurer. Oh non, la famille est là. J'ai juste envie de leur tourner le dos. J'ai pas le goût de leur parler, du diagnostic. Je sens que mon vase est plein. J'ai accumulé tellement de souffrances que j'ai pas encore digéré. La souffrance de M. Paul puis de sa famille, ça va être trop.
Encore une fois, je trouve que cet extrait représente vraiment bien ce qu'est la fatigue de compassion et aide à mieux comprendre la problématique. Un peu plus tôt, je disais que cette mise en situation peut résonner avec plusieurs personnes. En effet, une étude récente publiée dans le Journal of Clinical Nursing a révélé que jusqu'à 40 % des infirmières souffrent de fatigue de compassion à un moment donné dans leur carrière.
C'est quand même surprenant, 40 %, c'est beaucoup. En même temps, je me souviens d'une période où j'ai pu, moi aussi, ressentir cette fatigue-là et mes collègues aussi. J'imagine, Élisabeth, qu'on n'est pas seul quand ça arrive.
Effectivement, on n'est pas seul. Et oui, la statistique, elle est assez surprenante et ça signifie beaucoup pour Nautilus, qui est une organisation apprenante. Parce que selon la littérature, les infirmières de moins de 5 ans d'expérience de pratique clinique ont un risque plus grand de souffrir de fatigue de compassion. Et chaque année, on accueille des stagiaires, des recrues en soins infirmiers. Quand on débute dans la profession, notre coffre à outils pour affronter les obstacles, il n'est pas toujours bien rempli et il peut nous manquer des ressources pour faire face à certains défis. Bref, j'espère que le thème d'aujourd'hui va susciter une réflexion collective qui viendra vraiment bénéficier à tous les professionnels en soins, quel que soit leur niveau de compétence. Parce que là, j'ai glissé quelques mots par rapport aux professionnels en soins qui débutent dans la profession, mais la fatigue de compassion peut affecter chaque personne.
Merci beaucoup, Élisabeth. Est-ce que tu peux prendre un moment pour nous dire c'est quoi exactement la fatigue de compassion?
Oui, la fatigue de compassion, c'est un terme qui a été inventé en 1992 par Carla Johnson, qui est infirmière. Donc, le concept, il a été reconnu comme de la fatigue de compassion, mais aussi appelé usure de compassion, fatigue du soignant, fatigue empathique aussi parfois. C'est une fatigue qui se produit quand la personne soignante, elle perd sa capacité à prendre soin de l'autre ou à éprouver de la compassion. J'ai envie de vous partager la définition de Valérie Boucher, qui est une infirmière et chargée de cours en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Donc, elle le définit de la façon suivante. Pour elle, la fatigue de compassion, c'est quand un membre de la profession infirmière peut se sentir épuisé de devoir faire face à la détresse humaine au quotidien. Aussi, c'est vrai que c'est facile de se tromper entre l'empathie et la compassion. Alors, on va entendre ma collègue Marie-Pierre Labbé, qui est aussi conseillère en soins infirmiers, passionnée, curieuse envers la relation soignant-soigné. Elle nous partage ses connaissances sur la compassion et l'humanisation des soins. Marie-Pierre détient un programme de deuxième cycle en santé à l'Université de Sherbrooke, intégration de la pleine conscience en milieu clinique. Selon elle, la compassion a une place super importante dans l'identité professionnelle des infirmières. Alors voilà, écoutons-la, elle va nous parler de différents concepts pour mieux comprendre la fatigue de compassion.
Qu'est-ce que la fatigue de compassion? Pour mieux comprendre ce concept, j'aimerais vous faire explorer trois notions importantes qui est la sympathie, l'empathie et la compassion. La sympathie, c'est la souffrance, notre propre souffrance. C'est-à-dire que dans une relation, l'autre vit sa propre souffrance, mais le fait de voir cette souffrance-là vient vraiment en dedans de moi venir chercher une blessure très personnelle et je me fais envahir par celle-ci. Donc, je ne suis plus ouverte à l'autre pour l'accompagner. L'empathie, c'est la souffrance de l'autre qui vient résonner en nous. Même si j'ai jamais vécu cette souffrance-là, cette épreuve-là, ce défi-là de la vie, par mon imagination, par ma sensibilité, ma curiosité, mon cerveau vient stimuler les ondes de la douleur qui vient faire cette résonance en dedans de moi sur qu'est-ce que la souffrance de l'autre, de comprendre son monde à cette personne-là. La compassion, c'est un niveau un peu plus élevé que l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut l'empathie, mais c'est qu'on a la volonté d'agir pour et avec l'usager ou la personne qui est en avant de nous. C'est la résonance de la souffrance de l'autre, notre curiosité, notre bienveillance, mais en plus, c'est qu'on veut faire un geste, on veut poser un geste, minime soit-il, tel qu'un regard, poser sa main sur une épaule, lui dire qu'on est là, qu'on va l'accompagner, qu'on écoute de façon très profonde qu'est-ce qu'il nous dit, qu'il nous demande un service et par nos compétences qu'on puisse exécuter. Bien, le fait d'être en action et d'aider l'autre avec bienveillance, ça vient stimuler les ondes du bien-être du cerveau, l'activation des hormones de l'oxytocine, du bien-être. Donc, on ne reste pas seulement dans la zone de souffrance de l'empathie, on devient aussi dans la zone de bien-être. Et ce qui fait que nous, les soignants, on aime retourner aider les autres, plutôt que je veux dire, parce qu'on aime cette sensation-là de bien-être, d'aider les gens. La fatigue empathique, la fatigue de compassion, j'aime mieux dire la fatigue empathique, parce que ce que vous pouvez comprendre, la compassion amène le bien-être. Donc, ça serait la clé à la fatigue empathique. Puisque l'empathie fait sécréter les hormones du stress, fait sécréter aussi les ondes du cerveau de la douleur. Et si on reste dans la douleur, on reste dans la souffrance, et c'est là qu'on devient avec cette fatigue de compassion qui, dans la littérature, est nommée comme ça, ou l'usure de compassion. Mais certains auteurs aiment dire aussi plutôt la fatigue empathique.
OK, bien merci. Je comprends mieux maintenant. Ça éclaire vraiment là, sur la distinction entre l'empathie et la compassion.
Oui, et en parlant de termes qui peuvent s'apparenter à la fatigue de compassion, il y a les mots épuisement professionnel, épuisement empathique, trauma vicariant, stress post-traumatique, qui sont souvent utilisés pour parler du phénomène. Comme on le disait un peu plus tôt, ils sont utilisés de façon interchangeable, mais à tort parce qu'ils ne veulent pas tous dire la même chose. La différence va résider dans la source du stress. En tant que professionnel de la santé, on est souvent confronté à de la douleur, à la souffrance, à la mort, à des environnements stressants, ce qui nous amène à absorber beaucoup de ces émotions. Accueillir toute cette détresse demande une grande énergie, mais il y a vraiment un travail émotionnel important qui doit être fait en retour. Et c'est souvent cette étape très importante qui est trop souvent négligée. Avec le temps, ça s'accumule et le danger, c'est vraiment de laisser ces sentiments s'empiler, s'intensifier, mais ils ne disparaîtront pas d'eux-mêmes.
C'est vrai, hein? Les émotions s'accumulent si on ne prend pas le temps de les traiter. Les ignorer, ça ne les fera pas disparaître. Puis il est essentiel de les reconnaître pour éviter que ça devienne trop lourd à porter. J'aimerais ça maintenant qu'on parle des conséquences de la fatigue de compassion. Ça peut nous affecter comment?
Les conséquences sont multiples. Il y en a plusieurs, c'est varié. Au niveau personnel, tout d'abord, je vais en nommer quelques-unes. Ça peut se manifester par de l'irritabilité, de l'intolérance, de l'insomnie, de la fatigue. Il peut y avoir une baisse de l'estime de soi, une tendance à éviter les autres. Au niveau professionnel, ça peut se traduire par une perte de sens dans son travail. On peut avoir une augmentation des conflits avec les collègues de travail, une capacité de prendre des décisions qui peut être affectée. Donc, ça va être plus difficile de prendre les décisions dans le cadre du travail. Donc, déterminer la priorité des tâches à faire peut devenir plus difficile aussi. Et bon, dans le cadre d'une infirmière qui souffre de la fatigue de compassion, elle pourrait prioriser une tâche qui est moins importante au détriment d'une tâche qui est plus importante.
Oui, puis je pense qu'il y a un outil qui s'appelle la matrice des Eisenhower, qui est quand même utile là, pour aider à prioriser. Là, ça doit être disponible un peu partout là, sur Google, ces places-là.
Merci beaucoup. Élisabeth, je me demande, parce qu'en tant qu'infirmière, moi, je ne sais pas vous, là, je lis Élisabeth, là, mais moi, j'ai choisi cette profession-là pour prendre soin des autres. Mais ce que je comprends, c'est que face à une accumulation qui est excessive de tout ce stress-là, notre capacité à prendre soin des autres comme ça, bien, ça peut vraiment diminuer.
Exactement. On manque d'énergie pour bien répondre aux besoins des autres. Alors, ça peut se traduire par des erreurs dans les soins prodigués. On peut fournir un effort minimal dans les tâches. On peut voir aussi une augmentation de l'absentéisme au travail. Il peut y avoir un taux de rotation élevé du personnel. Aussi, je trouve qu'il y a un parallèle super intéressant à faire avec le concept des neurones miroirs. Les neurones miroirs, ça signifie que quand on voit quelqu'un ressentir une émotion ou vivre une certaine expérience, on va avoir tendance à l'imiter. Donc, notre cerveau réagit comme si on ressentait la même chose que cette personne-là. Nos émotions, nos attitudes peuvent aussi influencer nos collègues de travail. Alors, quand on souffre de fatigue de compassion, on peut contaminer nos collègues de travail, affaiblir l'esprit d'équipe. Mais la personne qui souffre de fatigue de compassion, elle ne le voit pas nécessairement. Donc, c'est vraiment important. De là, l'importance d'être à l'affût de comment se portent nos collègues de travail. Et finalement, on ne peut pas passer sous silence que la fatigue de compassion vient aussi influencer la qualité des soins que les usagers vont recevoir. Au CIUS, on agit pour et avec l'usager, ses proches et la population dans la prestation et l'organisation des soins. Et la compassion, c'est une des 6 dimensions de l'approche centrée sur l'usager et ses proches. Donc, on dit que c'est dans le respect, la bienveillance et la compassion que la relation de confiance entre l'usager, ses proches et le soignant va se développer. Donc, ça peut conduire à une faible satisfaction chez les usagers, là, vraiment le fait que les soignants vont souffrir de fatigue de compassion et augmenter les coûts pour l'organisation et donc affecter la sécurité des soins. Écoutons maintenant Marie-Pierre Labbé nous parler de l'importance de reconnaître la fatigue de compassion pour mieux adapter notre réponse aux besoins de santé et de bien-être des usagers.
L'usure de compassion, la fatigue empathique, ça l'amène l'infirmière, l'infirmier à être aussi dans l'automatisation des soins. Donc, on fait une checklist, à être dans la déshumanisation. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'humain, on ne voit que des tâches à faire. Et il y a aussi d'être en présentéisme, c'est d'être physiquement présent à son travail, mais sans être mentalement disposé pour faire ce travail-là. Il n'y a aucun engagement à améliorer et à donner notre meilleur comme infirmier et infirmière. Vous pouvez comprendre que c'est incompatible à avoir accès à notre jugement clinique. Donc, comment offrir des soins de qualité et de sécurité? C'est important d'avoir une vigie sur notre bien-être, sur notre santé psychologique, de prendre soin de soi afin de prendre soin des autres.
C'est quand même incroyable de réaliser toutes les conséquences que la fatigue de compassion peut avoir, là, autant sur la personne, mais aussi l'équipe, les usagers, les proches.
Excuse-moi, Augustine. J'aimerais ça prendre un temps avec toi. Est-ce que tu peux me suivre dans le petit local?
Oui, mais j'arrive.
Écoute, Augustine, je voulais prendre un temps parce que j'ai observé des choses qui, ben, ça te ressemble pas. Tu sembles fatiguée, puis on dirait que, ben, t'es en décalage avec quand on te fait des demandes, puis d'aller les exécuter, on dirait que t'as un découragement. Puis ce matin, je t'ai dit un beau salut. T'as fui mon regard, puis d'habitude, t'es pas comme ça, là, tu sais, tu me réponds, puis on a un échange visuel, puis tu continues ton parcours, mais là, je t'ai senti fuir. Puis, on dirait que t'es ici physiquement, mais t'es ailleurs. Puis ça, ben je t'inquiète. Au rapport, je t'ai demandé... Bien, comment va la famille de Paul suite à l'annonce du diagnostic? Puis j'ai senti que tu étais mal à l'aise, mais tu m'as dit que tu savais pas, puis que tu avais fait du changement de pansement. Fait que tout ça, je pense que c'est important qu'on prenne un temps ensemble, puis je veux vraiment valider, parce que moi, je t'inquiète. Je suis vraiment inquiète pour toi, parce que tu es différente. Je suis préoccupée aussi parce que la qualité des soins que tu sembles faire comme aujourd'hui est vraiment ben pas à la hauteur que qu'est-ce que tu es capable de donner. Avec tes compétences, tes connaissances, puis ton amour de l'humain, ta curiosité, je le ressens pas, ça. Est-ce que je me trompe? Fait que j'ai l'impression que tu me fuis ou que tu fuis les collègues, même les usagers, que tu prends des décisions pour être le moins... longtemps auprès des usagers puis de la famille. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que ça se peut que j'ai une malinterprétation là, de ce que j'ai vu comme la Augustine d'aujourd'hui? Mais...
Non, t'as raison. Je suis plus capable de ressentir la détresse des gens. Je me sens vraiment impuissante.
Oh, chère Augustine, ça me touche vraiment que tu oses nommer ça puis... Il y a une normalité à ça de se sentir impuissante, mais là, ça a l'air vraiment être bousculé. Puis ça me fait penser à la fatigue empathique. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler ou l'usure de compassion. Ça arrive chez plusieurs professionnels de la santé, puis je suis là pour toi.
On entend bien dans mise en situation un échange, un exemple d'interaction entre collègues pour mettre en lumière et soutenir une collègue qui souffre de fatigue de compassion.
Oui, puis c'est pas évident non plus d'aborder le sujet quand on constate qu'on a un collègue qui va pas bien. La mise en situation nous donne un bel exemple de la façon là, avec laquelle on pourrait aborder le sujet.
Oui, plusieurs trucs et astuces ont fait leur preuve pour contrer la fatigue de compassion. Laissez-moi vous détailler davantage chacune d'elles. Il y a probablement autant de ressources personnelles, donc c'est-à-dire les choses que les gens peuvent mettre en place par eux-mêmes, que des ressources professionnelles. Donc, soit les ressources que les gens peuvent aller chercher à l'extérieur. Premièrement, donc, une des premières suggestions qui est faite dans la littérature, c'est que les gens doivent commencer par prendre conscience qu'ils vivent de la fatigue de compassion. Et ensuite, il est important de prendre un moment de recul pour tenter d'identifier les sources de stress qui contribuent.
Donc, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est qu'une... Par exemple, une infirmière qui a eu plusieurs usagers qui sont décédés dans ses derniers quarts de travail, elle pourrait trouver ça vraiment difficile parce que ça la confronterait à son but premier comme infirmière, qui est de préserver la vie. Et elle pourrait se sentir de plus en plus fatiguée, distante dans les soins qu'elle donne, c'est ça?
Oui, exactement, ça peut. En étant exposée à la détresse de l'autre, ça peut avoir créé à l'infirmière une surcharge émotionnelle. Et dans cette prise de conscience, donc c'est encourager que les gens soient capables d'identifier sur ce sur quoi ils ont du pouvoir. Par exemple, j'ai aucun pouvoir sur le fait que la personne soit en fin de vie ou qu'elle ait subi un accident grave. Mais j'ai du pouvoir sur les soins que je vais donner à cette personne-là et comment je vais l'accompagner jusqu'à son décès. Donc, cette prise de conscience, ça permet vraiment de revoir les priorités qu'on accorde et de se repositionner vis-à-vis son rôle, ses croyances, ses valeurs, ses perceptions.
C'est intéressant, hein? Parce qu'en effet, on se met beaucoup de pression sans réaliser qu'on n'a pas nécessairement de pouvoir et de contrôle sur certains aspects. J'imagine que le fait de ne pas avoir de pouvoir, bien, ça ne veut pas dire nécessairement de laisser aller. C'est plutôt tenter d'offrir le meilleur de nous-mêmes sur ce que, justement, on peut contrôler.
Exact. Super bien compris. Changer sa perspective, ça peut aider. Et il faut être bienveillant envers soi-même, pas juger ses pensées ni ses émotions. Se concentrer sur ses réussites. Apprendre à reconnaître ses limites avant de les atteindre et les respecter, ces limites-là. Donc, se comporter avec soi comme on se comporterait avec son meilleur ami qui traverserait des difficultés, avec gentillesse et compréhension. Pour certaines personnes, il peut également être nécessaire de prendre une distance avec ce qui fait vivre de la souffrance. Pour contrer ou prévenir la fatigue de compassion, il est aussi recommandé de pratiquer des activités qui sont bénéfiques pour le bien-être. Par exemple, le yoga, la respiration, la méditation, l'activité physique, les différents loisirs, les arts, être dans la nature. L'objectif, c'est d'agir sur notre stress pour que notre cerveau libère une bonne dose de sérotonine et d'endorphine, nos petites hormones du bonheur.
Quand tu parles de méditation, Elisabeth, là, j'ai entendu dire que la pleine conscience, ça pouvait aussi aider dans ce genre de situation. Est-ce que je me trompe?
Non, tu ne te trompes pas. Tout à fait. Donc, plusieurs études démontrent les bienfaits de la pleine conscience chez les gens qui vivent de la fatigue de compassion.
Écoutez, c'est quoi exactement la pleine conscience? Je ne suis pas certaine de comprendre.
La pleine conscience, c'est une bonne technique pour se recentrer. On l'appelle aussi le mindfulness. Ça peut même vraiment facilement se pratiquer dans nos milieux de travail. Par exemple, quand on se lave les mains, prendre conscience de nos pensées, nos émotions à ce moment, ressentir l'eau qui coule sur nos mains. Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est chaude? Être à l'écoute des bruits que ça engendre, donc le bruit de l'eau, les bruits ambiants de l'unité. Accueillir ses pensées, les émotions qui nous habitent, sans toutefois les laisser prendre le contrôle, prendre les dessus. Selon certaines recherches, la pratique de la pleine conscience augmenterait les taux de satisfaction en matière de compassion.
OK, mais ça semble simple, là, concrètement. Je comprends ce que tu veux dire, mais mettons que moi, là, la Stécie qui est à l'urgence, je voudrais commencer à faire ça. Comment est-ce que je peux y arriver? Parce que là, vite comme ça, on dirait que je comprends pas.
Non plus.
Très bonne question. Mais je suis pas experte en la matière, mais je sais que plusieurs applications sont disponibles pour nous guider dans l'exercice de la pleine conscience. Par exemple, l'application Toute ma tête ou Petit Bambou sont disponibles via les différentes plateformes de téléchargement. De plus en plus d'ateliers ou de cours sont offerts pour initier les gens à la pleine conscience. Il y a plusieurs lectures en lien avec la méditation pleine conscience. Par exemple, Rachel Thibault, on entend souvent hein, ce nom-là, docteur en psychologie, a mis à disposition, met à disposition plusieurs ressources, autant pour ceux qui traversent une période difficile que pour ceux qui vont accompagner ces gens-là. La série de webinaires, justement, Les chemins de la résilience, est disponible gratuitement sur le net. Aussi, la semaine dernière, donc la lectrice en moi a terminé le roman Tout le bleu du ciel de Mélissa D'Acosta. Et vraiment, là, on plonge dans l'univers là, de la pleine conscience dans cette histoire-là. Pratiquer la gratitude, c'est aussi une stratégie très efficace. Écoutons maintenant Marie-Pierre Labbé. Elle nous propose 3 questions à se poser quotidiennement pour mettre en pratique cette gratitude.
L'expérience de la gratitude, c'est de se permettre un moment pour nourrir notre spiritualité, l'existentialisme en nous, notre humanisme en nous. C'est-à-dire de prendre un temps de mettre l'accent sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien et quel bien-être à offrir ou à s'offrir. Rachel Thibault parle de 3 questions pour vivre l'expérience de la gratitude. Qu'est-ce qui serait cause de gratitude dans ma vie ces jours-ci? Faut prendre un temps pour réfléchir à cette question-là. Quelle forme de réconfort, de bien-être puis-je offrir autour de moi et m'offrir aussi? Qu'est-ce qui m'émerveille au point où je me sens profondément reliée au monde qui m'entoure? La nature, les gens, les projets.
Là, Elisabeth, on a reçu plusieurs trucs, astuces que les gens peuvent mettre en place par eux-mêmes afin de contrer ou prévenir la fatigue de compassion. Maintenant, tu souhaitais nous parler des ressources externes auxquelles les gens peuvent faire appel, c'est ça?
Oui, exact. Et en effet, on veut encourager les gens à parler de ce qu'ils vivent. En parler vraiment, c'est ce qui va faire qu'on va prendre un premier pas de recul, donc va en découler d'obtenir du soutien, du support, nous aider à trouver des solutions. Si on n'est pas confortable à parler de ce qu'on vit avec notre entourage ou nos collègues immédiats, on peut prendre contact avec un veilleur de notre établissement.
Oui, c'est vrai, tantôt dans l'intro, tu nous nommais justement être membre de la communauté veilleur au CIUS. Mais dis-moi, c'est quoi exactement être un veilleur?
Un veilleur, c'est un employé de la communauté interne du CIUS qui a reçu une formation en premier secours psychologique. Il y a des veilleurs dans une multitude de secteurs de notre CIUS. Ils sont là pour vous écouter, pour vous soutenir. Pour les identifier, votre gestionnaire peut vous indiquer s'il y a un veilleur dans votre équipe, mais il est aussi possible de les identifier en inscrivant le terme « veilleur » dans la barre de recherche du bottin téléphonique de l'intranet. Ou encore, consulter la page intranet à l'intention de la communauté des veilleurs, où il y a une liste qui identifie ces personnes-là. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise de communiquer auprès d'un veilleur, vous pouvez contacter le programme d'aide aux employés qu'on appelle communément le PAE. Toutes les informations, encore une fois, sont dans Intranet.
C'est vrai qu'on passe rarement au PAE, mais on est vraiment chanceux d'y avoir accès et c'est vraiment une super ressource. J'imagine que l'équipe du SPIC dont on a parlé plus tôt là, dans la capsule coup de cœur, ça pourrait aussi être une bonne option.
Oui, certainement. L'équipe SPIC, hein, c'est une superbe ressource. Mais il faut se rappeler que cette équipe-là n'offre pas de soutien individuel, donc ça pourrait être utile dans un contexte où la fatigue de compassion se fait ressentir sur plusieurs membres d'une même équipe.
Et puis je pense, là, est-ce que le 811 pourrait aussi être une bonne option?
Oui, tout à fait. Info sociale, donc via le 811 option 2, c'est une super bonne option. On réfère nos usagers à ce service comme professionnel, mais c'est aussi une ressource qui peut être bénéfique pour nous. On se rappelle qu'Info Social, c'est un service téléphonique d'écoute qui offre des interventions psychosociales gratuites, confidentielles, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Finalement, il faut se rappeler qu'advenant que la détresse liée à la fatigue de compassion entraînerait des idées suicidaires, vous pouvez contacter le 1-866-APPEL, qui est une ligne d'écoute téléphonique spécifique à la prévention du suicide, aussi disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est une ligne disponible pour toute personne de l'entourage, professionnel ou intervenant qui côtoie des gens qui présentent des idées suicidaires pour les soutenir, les guider et accompagner en prévention du suicide.
Merci beaucoup, Elisabeth, d'être venue nous parler aujourd'hui de c'est quoi la fatigue de compassion, c'est quoi les répercussions, les conséquences sur notre pratique, sur les usagers aussi, puis surtout comment qu'on peut la prévenir, cette fatigue-là, les trucs, les astuces que tu nous as partagées aujourd'hui.
Hey, merci.
Merci.
Ça me fait plaisir d'avoir été là.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Comme on le sait, le CIUSSS Lestrichu, c'est un établissement apprenant qui accueille énormément de relèves en soins infirmiers. Les conseillères en soins préceptrices ont une offre de services pour soutenir la relève qui ont un coffre à outils qui est parfois moins garni là, pour affronter les imprévus, la gestion des priorités et se développer dans sa posture de professionnel, ses responsabilités inhérentes à sa profession là, dans leur quotidien. Donc, la préceptrice, elle accompagne la relève dans la construction et le développement de son identité professionnelle. Donc, en collaboration avec l'apprenante et en fonction de son potentiel et son niveau de compétence, elle va mettre en place différentes stratégies d'apprentissage individuelles ou de groupe qui va favoriser le développement de ses compétences professionnelles et en particulier son jugement clinique, c'est-à-dire son savoir et son savoir-être. Les préceptrices sont présentes pour la relève 0-2 ans. Alors, pour de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter la section Intégration des employés dans l'intranet pour tout connaître sur le programme de préceptorat.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulaslage.
L'écriture inclusive ou épicène. L'écriture inclusive ou épicène vise à rendre la langue française plus inclusive en évitant les discriminations de genre. Elle favorise des formulations neutres et équitables. Voici quelques principes clés. L'utilisation de la formulation inclusive en utilisant des termes neutres ou des périphrases pour éviter le genre. Par exemple, préférer les personnes à les hommes ou les femmes. La double flexion en mentionnant les deux genres, par exemple les étudiants et les étudiants. Une autre option possible pour les textes courts où l'espace est restreint, c'est l'utilisation du double abrégé avec l'emploi de parenthèses. Adopter l'écriture épicène contribue à promouvoir l'égalité et la diversité en reconnaissant toutes les identités de genre. Cependant, elle peut susciter aussi des débats. Certains considèrent qu'elle complexifie la langue et pose des défis en termes de lisibilité. Néanmoins, l'écriture épicène reste un outil puissant pour favoriser une société plus inclusive et égalitaire. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, diversité et inclusion dans l'intranet du CIUSSS de l'Estrichu.
Donc, c'est ce qui conclut le 9e épisode du balado Savoir et stéthoscope.
Merci encore à notre invitée, Elisabeth Saint-Amand. Et dans le prochain épisode, changement climatique, développement durable, ça vous dit quelque chose? C'est quoi le lien avec les soins infirmiers? On vous en parlera avec deux invités expertes, alors ne manquez pas ça.
C'était Stéphie Garriveau
et Julie Blanchette.
Merci beaucoup pour votre écoute. Suivez-nous sur toutes les bonnes plateformes et surtout, parlez-nous. À la prochaine.
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUSSS de l'Estrichu, Savoir et stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et stéthoscope.